par rapport aux poissons, puisque bon, c'est un peu mon sujet. Donc, première loi sur les échelons à poissons 1865, décret classant le chair à poisson migrateur 1905, ok. Enfin, c'est la loi qui prévoit que sur les rivières classées par décret, dans les 5 ans suivant la liste d'une espèce de poisson, donc il s'agit d'assurer la libre circulation sur les rivières, les propriétaires d'ouvrages auront 5 ans pour être en conformité avec la loi. Donc là, l'État, en fait, le ministère de l'écologie, a attendu que les travaux de modernisation des barrages et des écluses jussières soient mis en œuvre. Donc 96, et ça devait se terminer normalement en 2005-2006. Et donc le ministère de l'écologie a programmé l'arrêté ministériel de publication de la liste, donc avec la lose, la lamproie et l'anguille. Et l'arrêté ministériel est tombé le 2 août 2002. C'est-à-dire que depuis le 1er août 2007, tous les barrages auraient dû être équipés de passes à poissons à la montée et à la descente. Alors à Thésée, on a vu qu'il y a une passe à poissons qui sert de nichoir à oiseaux, parce qu'elle n'est pas en eau, il n'y a pas de barrage. Bon, voilà, la circulation est libre. Et sur les barrages sur lesquels il n'y a pas eu de travaux, du coup, il n'y a pas eu de passe à poissons. Ce qui fait que là, on est dans l'illégalité complète. Okay. Alors pour l'instant, personne n'a posé de recours, parce qu'on laisse encore un peu de temps pour la négociation. Mais il va falloir voir quand ça se termine, cette affaire. Donc, les tenants du tourisme, genre promène couillon, là, bateau mouche, eux, ils sont tenants, effectivement, de rendre navigable à nouveau le Cher, en gros, de l'Estuaire de la Loire, jusqu'à Saint-Aignan noyé. Il y a une double problématique. Alors, si les autorités sont coincées entre des usagers qui ont, par exemple, le bateau mouche, qui a des droits pour naviguer, avec des bateaux de navigation commerciale, et c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il doit faire, hein, parce que c'est 2/4 de touristes embarqués à chaque passage. Hein. C'est des gens qui ont des droits, et puis en même temps, la libre circulation des poissons migrateurs, et puis la directive cadre sur l'eau qui impose maintenant, effectivement, la libre circulation des poissons migrateurs, et des sédiments. Alors jusqu'à présent, les ouvrages à aiguilles, comme vous avez là, ils étaient mis en eau le 1er juin, les barrages étaient mis en place le 1er juin, et enlevés en gros courant octobre. Fait que tout l'hiver et tout le printemps, les poissons migrateurs pouvaient circuler à peu près librement. C'est pour ça qu'il y avait encore des anguilles, notamment dans le Fouzon, vous êtes passé hier. Le Fouzon, c'est une rivière très réputée pour les anguilles. Il y a des pêcheries d'amateurs d'anguilles d'Avalaison, des gîteurs d'anguilles, très importants jusqu'en 2002-2003.
Il y avait des permis spéciaux.
Oui, voilà, des permis spéciaux pour les amateurs pour pêcher anguilles d'Avalaison. Donc c'est ce qui montre qu'effectivement, les poissons pouvaient circuler. Par contre, pour les aloses, il n'y a que les années exceptionnelles de fortes crues, par exemple 2003. Je crois, où effectivement, 2002, où les aloses ont pu remonter en gros jusqu'à Vierzon. Parce que sinon, la rugosité migratoire a trop d'importance. Sur les aspects migrateurs, le problème, c'est que donc l'espèce la plus difficile à faire franchir un barrage, c'est l'alose. Mais même avec une passe tip-top, dans le meilleur des cas, on fait passer 70% des aloses. Donc mathématiquement, au bout de 4 barrages, il n'y a plus rien. Si on veut trouver un bon compromis, on peut laisser éventuellement 4 barrages. C'est un compromis qui est un peu négocié en ce moment. Et Agnès Thibault, je pense, soutient. Et aussi à certains élus de la région. On garde éventuellement 4 barrages. Suite Civray, parce qu'il y a les bateaux mouches sous le château de Chenonceau. Il y a éventuellement Roche-Pinard, parce qu'il y a tout le plan d'eau d'entraînement pour l'aviron, etc. Enfin bon, on voit de l'agglomération de Tours. Et puis après, il y a deux vieux barrages à Laval, qui est le barrage de Grand Moulin et le barrage de Savenières, qui sont des barrages, des seuils du moulin du Moyen-Âge, c'est pas des barrages à aiguilles, qui là sont déjà équipés de passes à poissons. Donc il y aurait Savenières, Grand Moulin, Roche-Pinard, et si vrai, ça ferait 4. Parce qu'on en met 5 et c'est sûr que la lose, on réussira jamais à restaurer la lose. Même en faisant des passes à poissons, quand même, c'était 1 million de francs du dénivelé. Donc en gros, c'est ça quoi. Ça fait, il y a pour 300 000 euros par barrage quoi, même passe à poissons. Donc passe à l'ose. Ceci dit, en plus maintenant il y a le règlement anguille, c'est-à-dire que le 20 septembre l'année dernière, l'Union européenne a publié un règlement de reconstitution du stock d'anguille. Il lui agit pour obligation de résultat. Le règlement se fout des moyens à mettre en œuvre, donc partout il y a des barrages. Là, on va faire des passes pour qu'elles montent et qu'elles descendent. L'objectif ultime, c'est de restaurer 40% de la production d'un environnement vierge. C'est-à-dire avant qu'on laisse quinte. Donc c'est un peu utopique, mais.
Parce que 4 barrages, c'est pas déjà trop.
4 barrages, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est pour la lose, c'est limite. Hein. Mais. Mais nous, c'est une position de compromis qui nous semble à peu près intelligente. Bah, disons, je pense que les gens avec qui on a échangé, les pêcheurs, les élus verts ou les quelques élus, même UMP ou PS, qui sont dans le compromis, le préfet lui-même pense que c'est un compromis qui est pas mal. Par contre, les tenants de la navigation, y compris des gabarres, soi-disant navigation traditionnelle, qui ont été conçus sur le Cher, effectivement, dans pas mal de villages, ils ont conçu des bateaux. Mais c'est des bateaux qu'on dit tirant d'hôtel que s'il n'y a pas de barrage, ils ne peuvent plus circuler, quoi. C'est pas des bateaux de canot, quoi. C'est pas des bateaux de rivière libre. Et donc tous ces gens-là sont en train de militer fortement pour qu'on rende navigable, qu'on refasse un canal de la confluence avec la Loire jusqu'à Saint-Aignan.
Mais un canal latéral ou le
canal? Non, qu'on rende navigable comme autrefois. Qu'on recanalise le Cher. Non, on ne creuse pas. On remet des barrages, des vrais barrages comme ils voulaient faire dans le Loir-et-Cher. Non, c'est les Colroyais jusqu'au bout, quoi. Eux, ils voulaient canaliser le Cher sauvage à l'amont de là où il est canalisé, quoi. Parce que le canal a été emprunté par la Nationale maintenant, bah, pour pouvoir le rejoindre plus haut, quoi. Alors,
quand on parlait tout à l'heure des poissons migrateurs, que la rivière était classée, potentiellement, si tous les barrages que tu as cités là étaient transparents, qu'est-ce qu'il y aurait sur la rivière et jusqu'où?
Alors déjà, dans les trucs rigolos, c'est que je vous dis 1905, alors la Sauldre, qui est un affluent qui coule en Sologne et classé à poisson migrateur, aux anecdotes, elle a fait l'objet d'une publication d'une liste de migrateurs en 86, alors que le Cher n'avait pas de liste. Et notamment, la Sauldre a été classée à Anguille, à Truite de Mer, mais pas le Cher. Donc comment il faisait? Il prenait le train, le bus, il faisait du stop, enfin bon, parce que... Donc il y avait l'obligation d'équipement des barrages sur la Sauldre, mais le tronçon Loire-Sauldre, lui, le Cher, n'était pas praticable du tout. Alors, ce sont des aberrations juridiques un peu notables, quoi.
Et donc, si tout est transparent, qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Alors, il y a le saumon, mais c'est fichu parce que le saumon, c'était sur le Haut-Cher et donc la Tarde. C'est ça, la Tarde.
Roche-Butte, ouais. Ça, là où on était.
Ouais. Donc, Roche-Butte, donc c'est rideau, le Cher, c'est même pas la peine d'y penser avant éventuellement une prochaine glaciation. Hein, si le glaciation s'arrête, mais bon, vu le scénario climatique qu'on a actuellement, c'est même pas la peine d'y penser. Après, on a trois espèces de migratrices anadromes, la lamproie marine et la lose, où là, on peut espérer effectivement que si elles arrivent sur le Cher sauvage, il y ait des zones de reproduction qui soient assez favorables. Certaines années, quand il y a des crues de printemps, ça marche, hein, des aloses et des lamproies qui remontent. Depuis 2 ans, il y a des grosses quantités de lamproies d'aloses de vues bloquées à Roche-Pinard. Hein. Ouais. Jocelyn Despinet de TOS a fait des photos, enfin il y a eu des PV de l'ONEMA, de CSP, gros stock de jeteurs bloqués sous ce barrage, hein, donc il y a un potentiel. Et après c'est l'anguille, c'est un enjeu énorme, hein, parce que, alors là je me mets du côté professionnel, les pêcheurs professionnels marins et fluviaux dépendants des poissons migrateurs, dépendants du bassin de la Loire, c'est 443 entreprises individuelles. Donc ça pèse lourd quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est toute l'économie de la vallée de la Loire et surtout de l'estuaire et de la côte qui dépend essentiellement de l'anguille, de la lamproie et de la lose. Donc on peut s'imaginer que c'est toutes des histoires d'écolo, mais moi qui suis un peu des deux côtés de la barrière, ça c'est des arguments que vous pouvez défendre, c'est qu'il y a quand même plus de 400 petites entreprises qui contribuent au tissu social de nos zones rurales et littorales estuariennes qui dépendent de ces ressources naturelles renouvelables. Hein, et plus elles seront abondantes, plus nos entreprises seront consolidées, plus on aura de l'argumentaire pour dire aux élus qu'il faut qu'ils continuent à améliorer les stations d'épuration, les réseaux d'égouts, qu'ils aménagent mieux les barrages, etc., etc. Donc normalement, tout ça, on devrait tous agir en synergie pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, quoi. Voilà.
La pêche à l'anguille pour la matinée aussi très très prisée à l'époque. Moi j'arrêtais de pêcher, j'arrêtais de prendre une carte quand j'ai pas pu prendre d'anguille, il n'y a plus d'anguille. Mais sur les bords du Cher, le soir après le boulot, on pouvait aller à la pêche à l'anguille.
Tout à fait. Alors le stock d'anguille, en gros, hein, c'est la décroche en 1980. Jusqu'en 1980, on a considéré que l'anguille était une ressource inépuisable. Et puis brutalement, ça a décroché. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'abondance de 95% pour le bassin de la Loire, qui est un des mieux préservés en Europe. Dans la Baltique, ils n'ont plus que 1 pour 1000 des anguilles qu'ils avaient il y a 30 ans. Alors pourquoi? Ben, il y a plein de facteurs. Hein. Changement climatique avec déviation du Gulf Stream vers la banquise du pôle Nord, hein, d'ailleurs qu'ils font très très vite maintenant. Donc nos civelles, si elles vont au pôle Nord, elles n'ont plus de Gulf Stream, elles ne peuvent pas donner de génitrice pour renouveler le stock. Après, arrivé sur les côtes, il y a des problèmes de pollution, de bouchons vaseux, hein, qui sont infranchissables par les poissons quand tu n'as pas d'oxygène. De pêche légale, il y a mes collègues, mais là, on commence à avoir des chiffres. On sait que le taux de prélèvement des civelles par les pêcheries illégales sur l'Aldour ou sur la Loire, c'est autour de 15%. Donc, c'est raisonnable. Il se passait 85% des civelles. Après, il y a d'énormes problèmes de braconnage. Et après, le problème des obstacles. C'est-à-dire que sur le bassin de la Loire, ont été identifiés dans les bases de données du CSP l'ONEMA. C'est en cours d'expertise. On a expertisé 3000 barrages sur les 10 000 recensés au déplacement d'anguilles sur le bassin de la Loire. Parce qu'une anguille, ça saute pas. Une anguille, là, c'est rideau. Elle ne peut pas avancer. Hein. Un jet plongeant de 20 cm, une anguille ne passe pas. Donc une buse sur un ruisseau qui est mal calé avec une chute, bah c'est rideau. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et surtout sur des rivières comme le Cher ou la Mayenne. Mayenne qui a été classée par décret en 1905 aussi. L'arrêté fixant la liste des espèces est de 1986 avec l'anguille. Et malheureusement, entre 1905 et 1975, l'État a concédé la rivière au Conseil Général. Le Conseil Général a concédé son droit d'eau et d'électricité à EDF. Et donc on a trois acteurs, l'État, le Conseil Général et EDF, entreprise d'État à l'époque, qui ne respectaient pas la loi parce qu'ils ont équipé 22 centrales hydroélectriques. Alors, sans faire de passe pour monter, mais c'est des petits barrages de 3-4 mètres de haut, donc ils pouvaient monter. Mais sans faire d'équipement pour que les anguilles passent ailleurs que dans les turbines quand elles veulent descendre. Donc là, c'est 99% de mortalité cumulée à la descente. Donc ça a été un dossier qu'on a complet, qu'on a présenté à la Commission européenne, parce que pour le règlement anguille, ils pensaient qu'ils réglementeraient le problème de l'anguille uniquement en réglementant la pêche. Et c'est un des dossiers qui leur a permis de faire comprendre qu'il y avait des tas de problèmes d'environnement, que beaucoup de politiques sectorielles affectent l'anguille. Il n'y a pas que la pêche. Il y a la politique de l'eau, la politique de l'énergie avec la relance d'hydroélectricité en France. Il y a la politique de la sécurité et du grand braconnage, du banditisme avec le braconnage civil, parce que ce sont des filières mafieuses qui sont à la tête de ces réseaux. Donc ça touche à beaucoup plus de politique que simplement la pêche. Et ça, il a fallu ce genre de dossier pour leur faire prendre conscience de ce problème. Plus les problèmes de pollution chimique, c'est vrai qu'avec les PCB dont on a parlé, il y a une étude sur la qualité des géiteurs d'anguilles. Alors c'est un laboratoire hollandais qui a fait ça, donc ils ont pris des femelles d'anguilles dans pas mal de bassins européens. Notamment, pour vous expliquer, on met des femelles d'anguilles, une anguille, hein, quand elles enfilent leur croissance en eau douce, une femelle d'anguille, normalement, elle doit faire accumuler dans sa chair 20-30% de lipides parce qu'elles ne se nourrissent plus. Et quand elles vont quitter la Loire ou le Rhône ou le Rhin, il faut qu'elles aient énergie pour faire 6000 km sans manger pendant plus de 6 mois et descendre à 5 à 7000 mètres de profondeur. Et arriver sur place, faire la maturation sexuelle. Donc une femelle mise dans un tube, enfin des lots de femelles, ils ont mis dans des tubes en verre, où là ils ont produit la vitesse de courant qu'elle rencontrera en moyenne dans l'Atlantique. Donc on leur a fait nager l'équivalent de 6 km pendant 6 mois sans interruption. Et pour faire ça, une femelle d'anguille ne consomme que 21 g de protéines et 60 g de lipides. Faites mieux en utilisation de l'énergie, c'est extraordinaire quoi. Et après, ils ont encore l'énergie, il leur faut à nouveau 60 g de lipides pour fabriquer les œufs pour la ponte. Mais le problème, c'est que, alors après, ils ont essayé, avec celles qui arrivent en bon état, alors déjà, il y en a plein qui meurent en route, soit parce qu'elles ont un parasite qui affecte la vessie, Anguillicola crassus, et le problème, c'est qu'en Loire, on a 20% des femelles qui ont la vessie gazeuse complètement détruite, c'est un parasite qui se développe dans la vessie qui la détruit, d'origine néo-zélandaise, vive le commerce mondial, et d'autres qui ont un virus aussi du Pacifique, un virus Evex, qui est un virus de la famille des Ebola. Ces virus Evex, en fait, elles meurent au bout de 1500 km par agi. Celles qui ont le parasite dans la vessie, elles meurent aussi environ 1500 km au bout d'épuisement parce qu'elles ont consommé trop de leurs réserves énergétiques, elles n'arrivent pas au bout. Et celles qui arrivent, alors toutes les femelles sur le Rhin à la Val de la Roure, donc quand on faisait la fécondation artificielle des œufs, les embryons étaient morts. On cherchait à savoir pourquoi. C'est uniquement parce que les PCB stockés dans les graisses, au moment de la maturation, ils migrent avec les graisses pour faire les jaunes des œufs. Et quand on fait la fécondation, ben la charge en PCB tue les embryons. Donc malheureusement, on sait que chez nous, toutes les anguilles, même si on arrête, la pêche est fermée maintenant sur Rhône parce qu'elles sont trop chargées en PCB, on sait que déjà toutes les femelles qui partent du Rhône à la Val de Lyon, de la Seine à Val de Paris ou du Rhin à la Val de la Roure, ben elles sont foutues. Donc ce sont des molécules hyper résistantes à la chaleur et l'électricité. Donc c'est pour ça que c'est utilisé comme isolant dans toutes les turbines, les machines-outils et les transformateurs. Et une molécule, il y a 209 molécules différentes de PCB, dont une qui s'appelle le pyralène. Est utilisé dans le transfo EDF. Et malheureusement, nos anguilles sont affectées. Et bizarrement, bon, correspondance, mais 1980, ça correspond à la période où on a diffusé du PCB partout dans l'environnement. Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'une espèce qui a 100 millions d'années, et en 30 ans, notre société industrielle va peut-être réussir à la flinguer, quoi. Voilà. Donc alors, en même temps qu'il y a eu c'est l'Allemagne qui a fait le forcing l'année dernière pour que le règlement Anguille soit sorte, l'Allemagne a appuyé par le Danemark et la Hollande, la Suède aussi, qui ont forcé pour que le règlement sorte, soit publié sous la présidence allemande. Ils ont aussi réussi à faire inscrire l'Anguille à l'annexe 2 de la CITES. La CITES, c'est quoi la CITES? C'est la Convention de Washington qui réglemente le prélèvement et le commerce des espèces menacées d'extinction. Donc il y a trois annexes. Annexe 1, là on a le tigre, l'éléphant, le panda, et comme seul poisson en Europe, l'esturgeon. L'annexe 2, c'est les espèces dont l'abondance est diminuée de plus de 80% en trois générations. Donc c'est le cas de l'anguille. Trois générations, ça fait environ 30 ans, un peu moins de 30 ans. Et 92%, oui, parce qu'on est à 95% de baisse du stock. Donc l'anguille est inscrite à l'annexe 2 de la CITES. Donc à partir du 1er mars 2009, moi qui suis pêcheur d'anguille, je vais avoir un peu le statut du chasseur d'éléphants ou de tigres, quoi. C'est-à-dire que quand je vais à la pêche d'anguille, j'ai été en réunion hier, avant-hier au ministère, ça rigole pas, là, parce que quand j'arriverai au bord avec une anguille, il faudra que j'ai une fiche de rempli déjà, sinon je suis verbalisable, je peux repartir avec les menottes, quoi. Hein. Ouais, c'est un délit.
Bah, à la limite, c'est bien.
C'est bien, mais c'est les pêcheurs honnêtes qui vont être le plus embêtés, quoi. Les trafiquants, ils vont encore avoir le beau rôle.
Pas aller jusqu'au moratoire comme il y a eu sur le saumon.
Ah bah là tu flingues 2000 entreprises de pêche en France au tapis. Là. Puisque comme il n'y a pas le moyen financier pour nous aider à faire autre chose, soit nous reconvertir, soit... C'est un système très bloqué en France. Complètement. On a proposé au ministère des solutions de reconversion, de diversification, etc. Mais tout est bloqué. On a un pic qui est complètement figé. On ne peut plus rien faire. Alors bon, à part disparaître.
Mais en principe, c'est quand même la logique, la même logique, qui partout amène ou peut amener à une telle situation de quasi-extinction.
Oui.
C'est toujours la même, c'est celle qui veut défendre jusqu'au bout un métier qui n'a plus de raison d'exister parce que l'objet de ces activités n'existe plus.
Alors, l'avantage d'avoir encore des pêcheurs d'anguilles, c'est que c'est d'avoir encore une économie substantielle d'anguilles. En Europe, c'est quand même 25 000 petits pêcheurs qui dépendent de cette espèce. En France, c'est 2 000. Hein, 1 000 marins sur les côtes Manche, Atlantique, Mer du Nord, 500 méditerranéens et 500 pêcheurs dans un intérieur que je représente, bah, en eau douce, pêcheurs en eau douce. L'intérêt qu'on a, c'est qu'on met encore du poisson de l'anguille sur le marché. C'est un signe que la rivière est encore de qualité, qu'il y a encore de la production. On est des relais auprès des autorités administratives ou politiques de l'intérêt de se battre pour sauver cette espèce. Et le jour où on a disparu, moi je ne suis plus au comité de bassin, je ne suis plus dans les instances et le rôle que j'ai ne pourra être remplacé. Je défends des emplois, je défends des petits pêcheurs qui sont tous attachés à leur rivière, à leurs poissons, qui défendent leur environnement comme ils peuvent. Donc voilà, peut-être qu'on n'a plus notre place. On est en train de prendre conscience qu'effectivement, on est peut-être en train de vivre la fin d'un monde. Pour certains, on pense que c'est presque la fin du monde. Hein, parce que, tu vois, une espèce qui a 100 millions d'années, réussir en 30 ans quasiment à l'exterminer, c'est quand même... Et c'est pas la faute des petits pêcheurs qui sont réglementés comme on est. Pêcheurs en eau douce, en France, on est réglementé strictement depuis 1669. Les droits de pêche sont contrôlés par l'État, le Royaume à l'époque, c'est l'ordonnance de Colbert, et après la République, depuis 1669. Un pêcheur locataire par l'eau, c'était déjà une mesure de Colbert pour pratiquer une gestion durable de ressources qui s'avaient limitées. Donc c'est des choses qu'on a intégrées depuis très longtemps. Mais le problème, regarde la loi sur l'eau, si moi je prends une anguille alors que j'ai pas le droit, c'est 22 500 € d'amende et un délit. Si une chaîne de centrales, 22 centrales EDF sur la Mayenne, ne respecte pas, tue toute l'espèce, eux, c'est 12 000 € seulement. D'accord ? Là, ça, c'est ce que j'ai dit au comité de bassin l'autre jour, ça n'a pas fait rigoler certains. Ça te montre le poids des lobbies des uns et des autres, hein ? Voilà, auprès des députés, des sénateurs. Ceci dit, j'ai posé question, notamment au Parlement européen et à la Commission à Bruxelles, hein, devant les représentants de tous les groupes de pression. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le règlement pour sauver l'espèce face, par exemple, à la directive énergie? Je savais, j'avais la discussion. Et on m'a dit, monsieur Boineau, et ça a été dit pour tout l'auditoire, c'est que sur le plan juridique, les différents instruments de l'Europe, de loi, directive ou règlement, ont le même poids. Et le règlement anguille a le même poids que la directive énergie, ou même poids que la DCE, ou même poids que la directive habitat. Donc, vous avez pour vous trois juridiques, la directive 4 sur l'eau, la directive Habitat Natura 2000 et la règlement Anguille, que vous devez mettre en œuvre pour contrebalancer l'aspect hydroélectrique lié à la directive énergie. Mais les électriciens ne peuvent pas dire c'est qu'un règlement Anguille. Non, ça a le même poids juridique.
Eh bien, qui a commencé la semaine passée. On nous avait été invités chez Bourleau pour parler de son projet de relance hydroélectrique. Là, on a vu le problème, c'est quel poids, quelle mesure européen a ou quelle directive. Et là, l'énergie qui demande de faire plus d'énergie renouvelable, la directive X, Y et Z, plus celle de l'eau, qui demande d'avoir un état écologique. Donc c'est vraiment la concurrence de ça. Ça revient à un lobby qu'il faut faire. À Bruxelles et à Paris.
Le problème, si vous voulez, c'est que ce que les élus ont du mal à comprendre, c'est l'effet cumulatif. Un rache, ça peut s'aménager. Deux, bon, on peut faire des passes pour monter, pour faire descendre les poissons, c'est souvent beaucoup plus compliqué pour l'instant. Faire descendre une anguille, une rivière ou un barrage hydroélectrique, pour l'instant, c'est pas faire autre que la faire passer dans les turbines. Donc ça va imposer des arrêts de turbines. Bon, on travaille avec EDF, on est en train de bosser avec eux pour mettre au point un modèle prédictif pour qu'ils arrêtent les turbines les bonnes nuits. Bon, on ne fait pas que critiquer, on essaie d'avancer aussi avec eux parce qu'il faut faire des compromis. Mais ceci dit, l'effet cumulatif, c'est trop important. Quand il y a 20 barrages sur une rivière, il ne faut plus parler de biodiversité, il ne faut plus parler de poissons migrateurs, c'est fini. C'est terminé. C'est-à-dire que c'est fini pour tant qu'il y aura les barrages, quoi. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles.
Bien sûr, mais c'est un débat. Regarde, les bisons, d'autres animaux, pour prendre l'Europe, qui ont été morcelés en petits segments, qui ne pouvaient plus se déplacer, etc. C'est la même chose. Je veux dire, pourquoi le saumon pèse-t-il plus que tous les autres animaux qu'on a déjà fait partir?
Les migrateurs sont les meilleurs indicateurs de la qualité écologique des eaux. Un migrateur qui doit avoir faire son cycle, doit aller de la source jusqu'à l'Atlantique... Voilà. Forcément qu'il intègre au mieux les contraintes que le système met sur les cours d'eau. Jusqu'en 80, l'anguille représentait par exemple la moitié de la biomasse des cours d'eau de toute la Bretagne et de tout l'arc atlantique jusqu'au Maine-et-Loire, là, ou à l'Indre-et-Loire. La moitié de la biomasse de poissons, c'était l'anguille. Donc la composante écologique de base. Et figurez-vous qu'en 1531, il y avait tellement d'anguilles dans le lac Léman, dans le lac de Genève, que l'anguille était excommuniée. Il y a trop d'anguilles.
C'était
Rome, ouais, ça, parce que ça bouffait les poissons nobles. L'homme, le chevalier, les ferrats étaient bouffés par les anguilles. Bon, maintenant, il n'y a plus d'anguilles qui peut arriver parce qu'il y a tous les barrages de la chaîne du Rhône. Mais pour vous dire, c'est une espèce hyper abondante. C'était vraiment la denrée de base de toutes les communautés qui vivaient le long des cours d'eau en Europe, dans toute l'Europe. Europe et Afrique du Nord.
Non, mais tu sais, ce débat-là. Il est vraiment très difficile à passer auprès de la population, notamment quand on parle des pêcheurs professionnels, tu vois. Je ne vais pas enfoncer le clou là-dedans. Mais à mon avis, il faudrait commencer à mieux maintenant. Une fois, on a réussi dans 20 ans de passer le saumon dans les têtes de gens comme quelque chose d'important, hein, un symbole, d'accord. Les gens, ils parlent aujourd'hui du saumon, de la rivière libre, de rendre les services gratuits qu'il fait à la société. Et ça, c'est complètement sous-estimé. Qui est la plus belle et la meilleure et la moins chère et la plus grande des piscicultures ou des salmonicultures? C'est une rivière vivante. Hein. Ça se calcule. Quelles sont les mesures de protection de l'environnement contre les crues qui décrut beaucoup les zones inondables, les zones humides, etc. Ça rend un service gratuit à la société. Combien ça vaut, tu vois? C'est-à-dire, le prochain pas, à mon avis... Il est d'aller au-delà maintenant du saumon, on peut dire. Le saumon, voilà, c'est très bien, il vivra là-dedans, mais ce qui est... Voilà. Ça, c'est notre prochaine mission. Parce que c'est gratuit. Parce qu'on est dans le win-win, parce qu'une zone inondable produit énormément de biomasse, et héberge énormément d'animaux, une biodiversité extrêmement importante, et il nous protège contre le cru, et encore d'autres, gratuitement.
Ce qui est intéressant, donc, c'est d'aller encore plus loin, c'est... Quand on nous parle du prix de l'électricité, par exemple l'hydroélectricité, on nous dit oui c'est moins cher que le prix de l'éolienne. Ce qu'on ne prend pas en compte dans le prix de l'hydroélectricité, c'est ce que nous coûte l'impact de tous ces barrages sur tous ces services que la rivière ne peut plus nous rendre. Et tout ça, ça a un coût et ça devrait être intégré dans le prix de l'électricité. Et du coup, on se rendrait compte que peut-être ce ne seraient pas les mêmes rapports. Et ça, c'est ce que nous demande justement la directive cadre européenne.
Un autre exemple sur l'anguille, c'est le bassin du Rhin. Je crois qu'il y a 10 centrales suisses sur le Rhin entre
Schaffhouse et la France.
Ouais, il y a 10 centrales hydroélectriques et en France il y a à nouveau 10 centrales donc 4 sur le canal du Alsace. Et dans le canal Alsace, ils passent 1400 m3/s. Le débit réservé du Virin, c'est 25 m3. Donc au moment où les anguilles partent.
Ce n'est plus vrai. C'est maintenant 70 à 80. Ouais, mais c'est grâce au combat des associations locaux, hein, uniquement.
Et donc le problème, c'est que les anguilles prennent pas prennent le canal, quoi. Et EDF a ramé pendant longtemps pour que ce ne soit pas inscrit dans la liste des cours d'eau migrateurs, ouais. Parce que c'est un canal en béton, donc c'est pas Natural 2000 ni un truc à migrateurs. Ah, oh, c'est la flotte, c'est la flotte qui conduit les anguilles, hein. c'est pas le statut juridique du tuyau. Hein. Et donc il y a 10 centrales en France qui tournent chaque 1400 m3/s. Et donc la mortalité sur l'anguille est de 100%. Pour les Suisses, c'est 93%. Alors, comme dit mon collègue, ça figure les gens d'EDF, votre électricité est renouvelable puisqu'elle est faite avec de la rillette d'anguilles. Vous graissez vos turbines, ouais, avec les anguilles. EDF est en train de beaucoup travailler au niveau du comité de bassin de l'agence de l'eau pour que le haut allier soit déclassé anguille. Parce que pour l'instant, l'anguille est dans la liste des espèces jusqu'à la source. Et pour pas être embêté avec Poutès, parce que tous les ans, il passe quelques anguilles par ascenseur, c'est-à-dire qu'il faudra arrêter les turbines parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de passer dans les turbines ou de franchir le barrage et s'exploser en bas. De toute façon, elles sont explosées, hein. 18 mètres de haut, elles sont mortes. Hein. Donc, EDF est très embêté. Donc, en sous-marin, ils sont en train d'essayer de faire déclasser le haut de l'allier anguille. Donc, je vous appelle votre vigilance là-dessus. Faut empêcher ça, quoi. Ouais. Symboliquement, ouais. Ce serait une perte.